Bonjour à tous et bonjour à toutes. Merci de nous retrouver sur Radio Judaïka Strasbourg. À quelques encablures de Pessah, nous avons le plaisir d'avoir avec nous le rabbin Ariel Merabibo, le rabbin du Merkaz. Bonjour monsieur le rabbin.
Bonjour à toutes, bonjour à tous.
Comment ça va au Merkaz?
Ça va très bien au Merkaz, ça
va tout
très bien à Strasbourg.
Voilà. Alors on va parler évidemment de Pessah. Et la question que je me posais, c'est que, évidemment, Merkaz c'est Sfarad, à Rambam au Merkaz c'est Ashkenaz, au Rambam c'est Sfarad. Est-ce qu'il y a des différences dans les prières, dans les textes qu'on lit à Pessah pendant la prière?
Alors à Pessah, comme aux autres fêtes et à toutes les occasions importantes de l'année, les communautés ashkénazes ont l'habitude de rajouter dans les prières du matin en particulier des petits piyoutim. Alors c'est vrai pour les fêtes, même pour le soir. Alors le piyout c'est quoi? C'est des petits textes composés au Moyen-Âge en général, donc qui ont été rajoutés à travers le temps dans la prière de base. Donc on a la même prière à l'origine, un Sfarad ashkénaz c'est exactement la même prière, mais il y a une sorte de couleur particulière, une atmosphère spéciale qui se ressent à l'intérieur même de la fête. Donc au moment même de la prière, on rajoute ces petits éléments qui parlent de manière très poétique de la fête. Il y a énormément de midrashim, il y a de très beaux textes à l'intérieur. Et puis surtout, il y a une sorte de mélodie, une mélodie qu'on retrouvera généralement qu'une sorte de motif qui est propre à chaque fête, que vous retrouverez donc dans les piyoutim, que vous retrouvez parfois
c'est
dans les kaddish.
C'est les mêmes ou pas les mêmes par rapport aux fêtes?
Alors chaque fête a ses piyoutim.
D'accord.
Chaque Rosh Chodesh a son piyout. Enfin, c'est chaque Shabbat particulier, comme Shabbat Hagadol par exemple, a ses piyoutim propres. Alors, au départ, vraiment, ça rajoutait énormément au texte. Avec le temps, dans la plupart des communautés ashkénazes, et c'est vrai également au Merkaz, une grande partie de ces piyoutim ont été petit à petit abandonnés. Ça rallonge beaucoup, beaucoup, beaucoup la prière. Et aujourd'hui, ben, les gens sont peut-être un peu plus pressés. Ils n'ont plus le plaisir qu'ils avaient auparavant à rester à la synagogue, à écouter et à chanter avec le chazan. Mais c'est vrai que ce qui différencie essentiellement la prière ashkénaze de la prière séfarade, ce sont ces rajouts-là qu'on trouvera à l'intérieur de la prière.
Moi, j'ai une question simple. Après, Arvit, chez nous, on fait le Hallel. C'est les Sfarad, c'est la même chose.
Alors, chez vous, chez les Sfaradim, effectivement, c'est quelque chose qui est exceptionnel hein, de faire Arvit le soir à la synagogue. Tout à fait.
Vous le faites, vous aussi?
Non, les Ashkenazim ne le font pas.
Pourquoi?
Ils ne le font pas. Alors, la question, c'est dans les deux sens. Pourquoi les Sfaradim le font? Pourquoi les Ashkenazim ne le font pas? Ce qui est sûr et certain, c'est qu'il y a un Hallel à réciter le soir au Seder. Et ça, c'est le plus important, ça c'est
après
pareil.
Après le repas.
Voilà, pour les Sfaradim comme pour les Ashkenazim, la fin du Seder se termine par le Hallel, qui est une partie à part entière extrêmement importante. Il y a même un des quatre vers qui est associé entièrement au Hallel, donc il faut surtout ne pas escamoter un petit peu la fin du Seder rapidement parce qu'on est fatigué. C'est très important, le Seder se dirige vers le Hallel. Alors ce même Hallel, c'est-à-dire cette mitzvah de Hallel qu'on a de réciter au soir du Seder, chez les Sfaradim, on considère que ça peut se faire également à la synagogue. En tout cas, en partie, ce n'est pas tout à fait le même Hallel, mais presque, c'est-à-dire le Hallel habituel. Simplement, donc c'est une question, est-ce qu'on a la même obligation comme ça de louer Dieu le soir de Pessah, ce qui est tout à fait exceptionnel, aussi à la synagogue? Les Sfaradim le font, les Ashkenazim ne le font pas.
D'accord. Mais de toute façon, il faut dire le Hallel le soir de...
Le soir du Seder, c'est la même mitzvah pour tout le monde.
D'accord. Il y a des différences aussi au niveau, évidemment, des cantillations. On va parler un peu de quelque chose qui est un peu à côté, le repas. Est-ce que chez vous, le Ashkenazim, il y a un repas particulier? Pourquoi on prend du réfort plutôt que des herbes amères? Est-ce qu'il y a des repas comme ça qui sont pour les fêtes?
Alors, il y a deux choses. Il y a le plateau du Seder lui-même et il y a le repas. Donc, le plateau du Seder, dans le principe, on devrait tous avoir le même. Comme d'ailleurs le Seder, c'est ce qu'il y a un petit peu de particulier, c'est qu'on a beau être Sefarad ou Ashkenaz ou Yéménite, ce que vous voulez. Le fait qu'on ait un Seder qui ait été institué par nos sages dans l'Agmara, qu'à travers le temps ce Seder a vraiment été formalisé d'une certaine façon, fait que malgré toutes les différences qu'on peut avoir dans le reste de l'année, on a le même Seder en fait. Prenez la Haggadah de Pessah, Sefarad ou Ashkenaz, elle est quasiment la même, il y aura le Birkat HaMazon peut-être qui va changer comme à l'habitude, mais autrement on a vraiment le texte qui est pareil, mais pas que le texte, l'ensemble de l'organisation, l'ensemble de la structure et entre autres ce plateau qui est au centre dans lequel il y a des aliments. On ne choisit pas ce qu'on met dedans normalement, on a quelque chose, un os avec de la viande un petit peu ou quelque chose qui rappelle le Korban Pessah, on a un œuf, ça c'est vrai pour tout le monde en général, d'accord, et on a du maror. Le maror, ça veut dire herbe amère. Alors c'est là par contre que il va y avoir une différence. Parce que la matzah, on pourrait avoir des matzahs un petit peu de formes différentes, mais ça reste de la matzah. Par contre, la Mishnah elle-même, déjà, propose une liste très large, en vérité, de marors possibles, principe que ce soit des herbes amères. Donc, dans toute cette liste-là, chacun trouve un petit peu ce qui est le sien. Les Sfaradim ont pris l'habitude de prendre de la romaine au départ. La romaine, donc c'est la salade, etc. Donc, d'autres prendront des endives, etc. Chez les Ashkenazim, depuis très longtemps, l'habitude a été de prendre du réfor, alors qui, en plus d'être amer, est très fort. et c'est vrai que ça marque énormément. Ça, c'est parce qu'on, même si pendant l'année, ça peut arriver de prendre du réfor, mais il est assaisonné, il n'est pas pris cru. Le fait de manger du réfor, c'est beaucoup plus que prendre des herbes amères. Dans l'esprit des enfants, c'est quelque chose qui marque considérablement. Un enfant smarade qui mange de la salade, bon, il mange de la salade toute l'année, on lui expliquera. Et par contre, le réfor, c'est quelque chose qui laisse une empreinte
dans la bouche.
Dans la bouche, mais dans l'esprit, exceptionnel. Quand vous discutez avec des enfants, une des choses qu'ils vont retenir le plus, c'est ce petit morceau de réfor qu'ils ont croqué, et qu'ils ont à peine souvent croqué, parce que c'est très fort. Donc,
alors, justement, on va rentrer dans l'idée. Quand on fait le seder, ce soir à Rosh Hashanah, ou à Pessah, est-ce qu'on est obligé de manger 30 grammes
Très bien. Alors, vous avez dit deux choses. Vous avez parlé de Rosh Hashanah et de Pessah. C'est deux choses complètement différentes.
Bien, un seder.
Voilà. Alors, il y a ce qu'on appelle un seder, mais là, encore une fois, comme je le disais, le seder de Pessah a été formalisé de manière très précise, très riche, très, très construite, très remplie par nos sages. Le seder de Rosh Hashanah, ce n'est pas le cas. Le seder de Rosh Hashanah, c'était des minagim, des coutumes très anciennes, qui datent depuis l'époque de la Gemara, sur le fait de prendre des aliments qui ont des noms, qui ont des goûts, qui sont évocateurs de quelque chose de positif. Mais comme c'était de l'ordre du minag, dans le monde ashkénaz, ça a été complètement abandonné, c'est-à-dire ça ne se faisait plus du tout, on ne faisait que la pomme dans le miel. Donc, il ne s'agit pas d'une mitzvah, donc ne s'agissant pas d'une mitzvah, c'est juste le symbole qui compte. On prend un peu de pomme, un peu de miel. Il n'y a pas une obligation de manger de la pomme dans le miel.
Ah bon?
Donc, non, chacun le prend. C'est plus le symbole qui compte. C'est même le nom. Quelqu'un qui n'aime pas la pomme, il dira la même chose en regardant sa pomme, en voyant les autres profiter, etc. Ou il prendra un autre fruit qui lui plaira.
Ça,
c'est Rosh Hashanah.
Et Pessah.
Voilà, c'est toute la différence entre ce qu'on appelle le minag, qui est extrêmement important, et la halakha. La halakha, dès qu'on est dans le cadre de la halakha, les choses sont mesurées, elles sont précises. C'est-à-dire qu'on doit consommer un aliment, on doit boire une boisson, donc le vin, etc., etc. Et nos sages, ce qu'ils vont dire, c'est qu'est-ce qu'on appelle manger, qu'est-ce qu'on appelle boire. On est tous d'accord, je pense, on n'a pas besoin de longues discussions pour dire que mettre en bouche un petit morceau, ça ne s'appelle pas manger.
D'accord.
Tout le monde est d'accord pour dire que prendre 10 matzot, ce n'est pas non plus nécessaire pour que ça s'appelle manger. La question, c'est où est la limite? À partir de quand on va considérer que ce que j'ai fait, ça ne s'appelle pas goûter, mais ça s'appelle manger? Nos sages ont estimé, ce n'est pas vrai que pour Pessah, c'est vrai en général, qu'à partir de quel moment, le minimum de ce qui s'appellera un sentiment d'alimentation, de repas, c'est le volume d'une olive, ça s'appelle kazaït. Et là aussi, il n'y a pas de différence, c'est Farad Ashkenaz, c'est pareil.
C'est 30 grammes à peu près.
Alors, ça a été estimé en grammes, d'accord, alors qu'à l'origine, en vérité, c'est un volume. Alors c'est important, c'est très important ce que vous dites, parce que c'est vrai, il faut tout faire pour manger les 30 grammes, et même plusieurs fois 30 grammes. Maintenant, sachant que c'est une estimation, et qu'il y a plusieurs règles, plusieurs façons d'estimer, quelqu'un qui n'est pas capable de manger les 30 grammes, il ne faut pas qu'il ait l'impression qu'il n'a pas accompli la mitzvah. Pas du tout. C'est un volume. Il faut s'imaginer une sorte de grosse olive, si vous voulez un petit œuf. Imaginez-vous votre matzah, elle prend le volume d'une. Celui qui a mangé ça, il est sûr d'avoir accompli sa mitzvah, même s'il n'est pas arrivé à 30 grammes. Donc à partir généralement de 20 grammes, on est quitte de la mitzvah. Je répète, que ce soit bien clair, il faut manger 30 grammes et plusieurs fois 30 grammes pour la matzah, pour le horaire, etc. Pour la ficoman aussi. Quelqu'un qui ne peut pas, il ne faut pas qu'il ait l'impression qu'il n'a pas accompli la mitzvah. D'accord. Il faut qu'il mange moins. Il mange moins, c'est-à-dire, encore une fois, le sentiment d'avoir mangé quelque chose de conséquent, dès qu'on a dépassé 20 grammes, c'est bon.
Alors, il y a quand même quelque chose d'intéressant, c'est que dans tous les aliments du céder, on peut prendre le temps de manger en 3 minutes ou en 4 minutes, sauf la matzah.
Alors, c'est exactement la même règle. En vérité, c'est exactement pareil.
Il y a 30 grammes.
C'est exactement. Il faut comprendre l'idée qu'il y a derrière. Nos sages n'ont pas cherché à nous donner des mitzvot avec une montre devant soi et une balance pour peser.
Parce que ça s'informe.
C'est pas ça l'idée. C'est la forme que les choses ont prise, malheureusement, mais il faut bien comprendre l'idée qu'il y a derrière. C'est une idée très simple et très logique, en fait. Parce que ça n'a pas de sens d'expliquer aux gens tu as une mitzvah de manger en 4 minutes. D'accord ? Pourquoi 4 minutes ? Enfin, ce sont des estimations qu'on a essayé de donner à des choses qui sont normalement censées être signifiées, ce qui s'appelle une norme, ce qui s'appelle la règle, ce qui s'appelle les choses normales. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est manger normalement. C'est ça qu'on nous demande. Quelqu'un qui mange un tout petit peu, ou qui mange beaucoup, mais très lentement, et ça lui prend 10 heures, là encore, on sera tous d'accord pour dire qu'il n'a pas mangé, en fait, il n'a pas pris un repas. Manger un repas, c'est manger quelque chose de suffisant, un petit peu conséquent, dans un temps moyen, voilà. C'est tout. Et donc, l'estimation, elle est là. Maintenant, quelqu'un qui mange 30 grammes à toute vitesse, avec l'impression qu'il ne va pas accomplir sa mitzvah, il ne mange pas vraiment normalement non plus.
Ouais.
Et quelqu'un qui prend par contre tout son temps et qui discute au milieu, et qui parle, et qui s'arrête, etc., il n'a pas non plus fait sa mitzvah. Donc la mitzvah, elle est très simple. Il faut manger avec l'esprit de faire une mitzvah, et ça, c'est très important. Donc je prends la matzah dans les mains, je pense que je vais accomplir la mitzvah. Donc d'abord, il y a l'intention de faire la mitzvah, il y a la bénédiction qui va signifier cela, et je ne fais que cela. Je ne parle pas, je ne discute pas, je mange ma matzah. Je mange mes 20 grammes si je ne suis pas capable de manger plus. Je mange mes 30 grammes si je peux les manger. Je mange deux fois si c'est nécessaire. Et je ne fais que ça. Et voilà. Et quelqu'un qui a fait ça, il a bien fait sa mitzvah. Il est dans sa mitzvah.
Alors, rabbin Ariel Rabibo, quand on parle avec les rabbanim ou les sages, ils vous disent on doit faire comme si on sortait d'Égypte tous les soirs. Je suis bien habillé, j'ai une belle table, j'ai une belle maison. C'est difficile de revenir comme les Juifs sont sortis en Égypte. Comment on fait ?
Très bien. Là, vous touchez un point essentiel du soir du Seder. Vous avez très, très bien visé. Le soir du Seder, ça n'est pas raconter l'histoire du passé. C'est pas ça. Ça n'est pas se souvenir du passé. Ça, on le fait tous les jours, au moins deux fois par jour. Tous les jours, dans le schéma, troisième paragraphe du schéma, on se souvient de la sortie d'Égypte. Quand on fait le Kiddush Shabbat, on se souvient de la sortie d'Égypte. Le souvenir de la sortie d'Égypte est quelque chose que l'on fait de manière perpétuelle, régulièrement. Très bien. Le soir du Seder, on nous demande quelque chose de beaucoup plus puissant, beaucoup plus fort en intensité. On nous demande de vivre une expérience de la sortie d'Égypte. Alors, ça veut dire quoi, vivre une expérience de la sortie d'Égypte ? C'est là qu'il faut faire attention. On ne demande pas de m'habiller comme les Égyptiens, d'accord ? De revivre la façon, etc. Pourquoi ? Parce que ça n'aurait aucun sens pour moi. Et si je devais le faire, c'est sympathique, ça peut éveiller la curiosité des enfants. Et certains le font d'ailleurs, vraiment, ils le jouent un petit peu. Mais ce n'est pas ça qu'on nous demande. Ça, c'est quelque chose qui est apparent. Ce qu'on nous demande, que ce soit intérieur. C'est que, en moi, j'ai vraiment le sentiment de vivre ce qu'a été l'amertume d'abord. Il y a un ordre à respecter. De vivre ce qu'a été la douleur, ce qu'a été l'humiliation. Ce qui a été l'indignation que j'ai été d'être aussi vil, d'être considéré moins qu'un animal.
Dans un endroit totalement différent. À la rigueur, si on ferait un repas normal, j'aurais dit, d'accord, mais là, on fait toujours un grand repas avec
tout à fait. L'abondance, mais c'est pour ça qu'il y a la maror.
La joie, le...
Vous avez tout à fait raison. C'est pour ça que le soir du Seder, ils sont entremêlés à la fois... ce qu'on appelle le gnaï, c'est-à-dire l'indignité, le fait d'avoir été vil, d'avoir été humilié, d'avoir été considéré comme moins que rien, on doit le marquer. C'est à ça que sert le maror. Manger du réfort, manger la romaine avec le goût amer ou des endives, etc., c'est censé nous faire revivre cela, pas nous le rappeler mentalement. Goûter l'amertume, vous savez, c'est avoir la vie amère. C'est ce qui est écrit. Avoir la vie amère, c'est quelque chose qui est très fort comme idée. C'est pas quelque chose d'intellectuel. C'est quelque chose qu'un homme qui est frappé, un homme qui n'a pas le droit de parler, un homme qu'on humilie tous les jours, sa respiration, son battement de cœur, la salive qu'il avale durant toute la journée est amère. Il a le souffle coupé, c'est ce qui est écrit. C'est quelqu'un dont la vie est devenue amère. On nous demande de ressentir cela d'abord. Une fois qu'on a ressenti cela, on doit ressentir la liberté. Et ressentir la liberté, ce n'est pas un habit qu'on va porter. Ce n'est pas un déguisement de sortie d'Égypte. Donc pour répondre à votre question, ce n'est pas une question simplement de ressembler à ce que faisaient nos ancêtres. On ne ressemble pas. On vit la liberté à notre époque à une autre forme, mais c'est la même liberté.
Alors justement, c'est quoi la liberté ?
La liberté, c'est toute la grande question. Et, et c'est ce à quoi, normalement, on doit amener nos enfants. C'est des questions qu'on doit avoir le courage de poser.
C'est quoi quand un enfant vous dit « Papa, c'est quoi la liberté ?» Vous répondez quoi ?
Alors ça va dépendre. Chaque enfant, il a une question différente. Un enfant qui lui dit « Mais papa, c'est quoi la liberté ?» Je vais lui répondre d'une certaine façon. Un enfant lui dit « Mais c'est quoi votre liberté ?» D'accord ? Est-ce que c'est manger de la matzah, votre liberté ? Le ton, souvent, de la question va tout changer. C'est la fameuse... le fameux texte des quatre enfants qui montre comment, à travers les questions, qui sont les questions de « C'est quoi les mitzvot ? C'est quoi la Torah ? C'est quoi être juif ? C'est quoi la liberté ?» Tout ça, ce sont les questions, en vérité, des quatre enfants.
Alors, ce qui est intéressant aussi, vous venez de le dire, c'est le nombre 4 qui revient, les 4 enfants, les 4 verres de vin. Ce numéro, ce chiffre-là est tellement important, pourquoi ?
C'est très juste, hein, ça revient sans arrêt. Vous avez également le texte de Haggadah, de récit le plus important, c'est celui où on commence par Arami Oved Avi. Donc, et là aussi, il y a quatre versets. On a choisi, la Torah, en quatre versets, nous raconte la sortie d'Égypte. Nous, on reprend ces quatre versets et on va interpréter ces quatre versets. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui revient beaucoup, ce chiffre 4. Il revient d'ailleurs pas simplement le soir de Pessah dans la Haggadah. Il revient avec la sortie d'Égypte lorsque Dieu annonce à Abraham que ses descendants seront esclaves en Égypte. Il utilise deux fois le chiffre 4, alors qu'a priori, c'est pas compatible. Il va dire 400 ans, il va dire 4 générations. Or, une génération, c'est pas 100 ans. Donc, on voit bien que ce qui est le plus important, c'est le chiffre 4. Donc, c'est l'idée du chiffre 4 qui revient tout le temps. Le chiffre 4, vous avez raison de le remarquer, est totalement rattaché à la sortie d'Égypte et à la Haggadah de Pessah. Il y a beaucoup d'explications là-dessus. Le Maharal de Prague en particulier va travailler cette question-là sur les chiffres en général, pas simplement par rapport à Pessah, hein, il va le faire aussi à Hanouka ou à d'autres endroits. Il va montrer que le chiffre 4 représente aussi ce qu'on appelle les 4 exils. Donc, l'exil est associé au chiffre 4. Il y a 4 empires. Et ça, on voit ça dans le livre de Daniel, par exemple.
Même Yaakov, quand il voit les échelles, il y a tous les
empires. Le Midrash, hein, exactement, vous avez raison. Dans le texte, on ne le voit pas, mais le Midrash, dans une des explications qu'il va donner, il va dire, ce qu'il va voir, ce sont les 4 empires. Alors, cette idée des 4 empires vient du livre de Daniel. Ensuite, on va le retrouver dans beaucoup de Midrashim, dans beaucoup de Gemarot, etc. Et il va être associé tout le temps à la notion d'exil. Alors, la notion d'exil, il faut l'expliquer, c'est une notion de domination. C'est quel est l'empire qui domine l'humanité? Et le peuple d'Israël est tout le temps soumis, ainsi que le reste de l'humanité, à cet empire. Donc 4 empires, ça signifie 4 dominations et 4 exils pour nous. 4 exils, et c'est ce que va démontrer le Maharal, c'est pas 4 fois la même chose, c'est 4 facettes différentes. C'est 4 identités d'Israël qui va à chaque fois se transformer. C'est chaque fois une façon de subir un type de domination sur des aspects de sa personne qui vont être différents, ou sur ces aspects de sa nation qui vont être différents. Ce n'est pas tout à fait pareil. Un exemple, la Grèce, c'est un empire tout à fait étonnant, un exil tout à fait étonnant, puisqu'on est en terre d'Israël. C'est un exil en terre d'Israël, c'est aussi possible. Alors que Babylone, ce sera l'empire qui signifiera la destruction du temple. Perse, c'est un empire qui reconstruit le temple. Vous voyez. Donc l'idée d'empire et l'idée de domination, ce n'est pas 4 fois la même chose. Eh bien, l'Égypte porte en elle une sorte de préfiguration de tous les exils. Il y a dans le vécu qu'a eu le peuple d'Israël en Égypte, l'exil en Égypte et l'esclavage en Égypte, quelque chose qui représente déjà l'ensemble des 4 dominations, des 4 exils qu'on va connaître. Et également des 4 libérations. Donc en fait, il y a 4 libérations. C'est 4 niveaux. Alors ensuite, on pourrait discuter sur quels sont ces 4 niveaux. Ce sont les 4 verbes qui ont été utilisés pour parler de la délivrance. Il y a quelque chose de physique, il y a quelque chose de spirituel. Vous savez qu'il y a des gens qui sont très libres intellectuellement, qui ont une réflexion qui est très libre, mais qui ont un corps qui les enferme complètement. D'autres, c'est l'inverse. Ils ont une liberté de corps, une liberté d'action, mais qui, au niveau de l'esprit, sont complètement annihilés. Ce sont des gens qui ne se rendent même pas compte qui sont esclaves. Donc, il y a des dimensions différentes de l'exil, il y a des dimensions différentes de la liberté, et c'est ici divisé en 4.
Alors, Rabbi Rebibo, vous savez que en ce moment, l'actualité au Proche-Orient est, comment on va dire, très, très compliquée. Est-ce qu'on peut mettre une relation entre ce qui se passe en ce moment et la fête de Pessah, ou chaque chose est différente?
Les deux réponses sont vraies. Chaque chose est différente et on peut faire des relations. Ça oblige à avoir effectivement les deux attitudes. Vouloir à tout prix faire coller l'actualité à un texte ou à une histoire, évidemment, c'est faux. C'est une erreur, à mon avis. Chaque histoire a ses particularités, chaque histoire a ses dynamiques propres, et ça cause, si on a cette attitude, parfois des erreurs graves, parce que ce qui est vrai un jour peut être exactement faux un autre jour. Donc des aspects, des attitudes qu'il faut prendre une fois, il faut parfois prendre exactement l'attitude inverse. Or, si on croit que l'histoire colle nécessairement à ce que nous, on imagine, on peut se tromper d'époque, on peut se tromper d'attitude. Donc, d'une part, première réponse, les choses sont complètement différentes, chaque époque est différente. Le peuple d'Israël aujourd'hui, sur la terre d'Israël, ça n'est pas le peuple d'Israël qui sort d'Égypte, avec toutes les différences que ça. Et en même temps, l'histoire d'Israël est un continuum. Les choses se suivent les unes après les autres, d'une part. Et comme on l'a dit, et l'histoire d'Israël est entièrement inclue dans la Torah elle-même, et dans, en l'occurrence ici, dans la sortie d'Égypte. La délivrance de la sortie d'Égypte préfigure l'ensemble des délivrances. Donc c'est sûr qu'il y a des liens. La question, c'est quels sont ces liens? Et là, ça demande une grande intelligence, mmh. une grande réflexion. Qu'est-ce qu'on peut tirer? Qu'est-ce qu'on peut apprendre? Mais une chose qu'on peut apprendre certainement, c'est que si on revit la sortie d'Égypte tous les ans, chaque année, on la revit, c'est pour nous assurer qu'il n'existera jamais de situation où le peuple d'Israël sera totalement esclave. C'est fini, cette époque-là. L'esclavage est derrière nous. Il faut savoir assumer cela, même si on vit parfois des époques très difficiles, même si parfois on est écrasé, on est dominé. La liberté qu'on a acquise à Pessah, elle ne nous sera jamais enlevée. On est un peuple libre, même avec des chaînes aux mains. On est un peuple libre, même avec des missiles qui nous tombent sur la tête. Pourquoi? Parce que ce que la Torah nous a donné, la dignité qu'on a eue en sortant d'Égypte et au pied du mont Sinaï, cette dignité-là, même au fond d'une prison, on continue à l'avoir. Un juif, une juive, a quelque chose en lui qui lui donne une profonde liberté. Et ça donne une force très grande. Il ne faut jamais désespérer de cela. Deuxième chose, on sait avec pertinence que celui qui dirige l'histoire, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est lui qui, avec des miracles extraordinaires, nous a fait sortir d'Égypte. On n'était plus capable d'y croire, on n'était plus capable de comprendre, on ne voulait plus croire, et les choses nous ont surprises. Donc il faut espérer, il faut attendre qu'on ait ce mérite-là de voir encore une fois, comme ça se produit déjà, la main de Dieu dans l'histoire, et qu'on soit en adéquation avec cela, parce que ça signifie rien de dire « je veux la main de Dieu dans l'histoire », mais que moi, par contre, mon esprit il est complètement ailleurs. Je demande juste à Dieu de venir m'aider quand ça m'arrange, mais qu'en fait, j'ai aucune intention de partager l'histoire que lui est en train d'écrire. Si effectivement on veut que Dieu écrive l'histoire et que ce qui est en train de se produire en Israël soit une grande libération, il faut qu'on accepte aussi ce que ça signifie. Si Dieu écrit l'histoire, il faudra nous accepter d'entrer dans une histoire écrite par Dieu. Et ça, c'est, je crois, un des très grands défis de Pessah, accepter d'entrer dans une histoire écrite par Dieu.
Ce sera quoi les premiers mots que vous direz dans votre Vartora?
J'ai pas encore préparé. C'est une bonne question. Vous me posez comme ça, j'ai pas encore préparé. Et puis il va se passer tellement de choses d'ici là. Je sais pas encore. Je préfère ne pas dès maintenant me fixer les mots que je prononcerai. En tout cas, j'aurai, ça c'est sûr et certain, un sentiment très fort pour l'ensemble de ma Kila, pour l'ensemble de ma communauté, pour l'ensemble des Kilotes de Strasbourg. On forme une magnifique communauté, tous ensemble. Nos différentes Kilotes, les unes les autres, ce sont juste des frères et des sœurs qui ont créé leur famille, mais on reste une très grande famille. On reste une très très grande famille. On s'est entre-temps chacun marié, on a eu des enfants, etc. Et ça fait plein de Kilotes. Mais tout ça, c'est une seule grande famille, Strasbourg. C'est magnifique. On est heureux à se retrouver les uns les autres, on est heureux à s'inviter les uns les autres. Donc mes premières pensées sera d'abord pour cette très belle Kila, pour nos frères et sœurs en Israël, bien sûr. Et puis pour le monde entier, qu'Akadosh Baruch Hu nous fasse connaître une Géoula, une libération qui ne soit pas que pour le peuple d'Israël, pour l'humanité tout entière, qu'il n'y ait plus de larmes, qu'il n'y ait plus de souffrances, qu'il n'y ait plus d'esclaves, qu'il n'y ait plus de gens qui souffrent, et que vraiment on connaisse un temps de libération.
Merci, M. Ravar Avivo, et puis Sarkashav Samera.
À vous aussi, merci à tout ce que vous faites. À vous.